Il est midi et demi sur France Culture. Le journal Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Le Covid-19, désormais qualifié de pandémie par l'Organisation mondiale de la santé, fait trembler les grands acteurs économiques de la planète qui injectent à tour de rôle des dizaines de milliards de dollars pour éviter un désastre. Par ailleurs, fait sans précédent, le président américain a annoncé la suspension pour 30 jours de la plupart des voyages depuis l'Europe et exhorté les Américains à éviter tout voyage à l'étranger.
En France, à présent, Emmanuel Macron et Édouard Philippe s'affichent tous deux en première ligne ce jeudi face à la pandémie.
Oui, le chef de l'État s'adressera ce soir aux Français à la télévision. Quant au Premier ministre, il a reçu ce matin à Matignon les présidents des assemblées et des groupes parlementaires ainsi que les chefs de parti. Outre cette crise donc liée à la propagation du coronavirus et qui occupera aujourd'hui encore l'essentiel du journal, nous reviendrons sur les annonces ce matin du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, lequel a annoncé de nouveaux ajustements pour les prochaines épreuves de contrôle continu du nouveau bac pour les élèves de première. Et puis comme chaque jeudi, l'invité politique de la rédaction aujourd'hui, nous recevrons Marc Fesneau, ministre des Relations avec le Parlement. Et à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Avec la philosophe Florence Burga, pas de côté, elle est directrice de recherche à l'INRA et signe au seuil qu'est-ce qu'une plante. Au-delà de cette question qui paraît simple, c'est beaucoup plus compliqué de savoir ce qui distingue et qui différencie aujourd'hui des plantes des autres formes du vivant, c'est-à-dire des hommes et aussi des animaux.
Merci et à tout à l'heure. Le mot a donc été officiellement lâché depuis hier. Le coronavirus n'est plus une épidémie mais bien une pandémie, une nuance sémantique qui en réalité ne fait que confirmer ce que l'on constate quotidiennement et invariablement, à savoir que l'étendue de la maladie s'est aujourd'hui élargie. En revanche, au débat sans fin de savoir si la peur est ou non plus contagieuse, que le Covid-19 lui-même, l'Organisation mondiale de la santé, n'aura pas véritablement apporté de réponse concrète, seule certitude, le dernier bilan fait état de plus de 119 000 cas de contamination recensés dans plus de 110 pays et territoires, ayant causé la mort d'au moins 4351 personne. Pour le reste, s'agissant des moyens de prévenir une infection par le nouveau coronavirus ou d'en guérir les symptômes, les spécialistes de l'OMS tablent sur un délai de 12 à 18 mois avant de voir potentiellement le premier vaccin être mis sur le marché. Quant aux médicaments à l'étude, près de 80 essais cliniques seraient actuellement en cours et là il faudra sans doute attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant que ces molécules antivirales puissent être commercialisées. Alors, il est un vaccin qui lui est d'ores et déjà prêt à être administré. En revanche, celui de l'injection de monnaie. Quand l'Australie annonce un plan de relance de 18 milliards de dollars, le Royaume-Uni promet lui un soutien budgétaire de 30 milliards de livres. De son côté, l'Italie prévoit de débloquer une enveloppe de 25 milliards d'euros. Et puis, seule grande banque centrale à n'avoir pas encore réagi à la crise, la Banque Centrale Européenne devrait sortir aujourd'hui un nouvel arsenal monétaire. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Face à cette menace aussi inédite que difficile à évaluer, et alors que ces derniers jours, la panique des marchés a atteint des niveaux rappelant la crise financière de 2008. Chacun espère donc que la Banque Centrale ramènera le calme. Problème, Marie, son principal taux permettant aux banques donc de se refinancer est déjà à zéro depuis 2016. Dès lors, quel type d'ordonnance anti-coronavirus la BCE peut-elle bien délivrer?
Alors, la Banque Centrale Européenne a face à elle quatre types de chocs. Un choc d'offre, les entreprises ne fonctionnent plus normalement. Un choc de demande, ça ce sont les particuliers qui ne consomment plus ou moins. Un choc financier, inquiet des répercussions de ces deux chocs, les marchés font le yo-yo et plutôt vers le bas. Et quatrième souci à régler, spécifique à la BCE, celui-là, un de ses membres, l'Italie, est particulièrement atteint par cette crise. Alors même si ces taux sont à zéro, la BCE n'est pas sans moyens, car depuis 2008, elle a créé des outils que l'on dit non conventionnels et qu'elle peut adapter. François Cabot, économiste à la Barclays.
La BCE a des outils tout prêts, mais qui pour moi devraient être assouplis pour inciter les banques à prêter aux entreprises pour assurer leur viabilité et pour faire en sorte que cette crise, qui pourrait être une crise de liquidité, ne devienne surtout pas une crise de solvabilité, évitant aux entreprises et petites et moyennes entreprises en particulier de devoir mettre clé sous la porte alors que finalement elles sont viables et solvables par ailleurs.
Alors la BCE peut limiter les problèmes de trésorerie des entreprises de façon indirecte, car la BCE ne prête pas directement à l'économie, mais elle peut offrir aux banques des facilités de crédit, ce qu'on nomme les liquidités, de façon ciblée et conditionnelle, si elle prête aux PME notamment. La BCE peut également assouplir la régulation financière mise en place en 2008 pour augmenter les capacités de crédit des banques notamment. Pour aider l'Italie à passer ce mauvais cap et l'aider à trouver les moyens de financer ses dépenses, eh bien elle peut aussi décidé d'acheter plus de titres de dette italienne. Il y a d'autres possibilités encore. Le problème, c'est que l'impact de toutes ces solutions est incertain, car dans ces moments d'angoisse, la confiance est clé et qu'elle dépend grandement de l'évolution de la pandémie sur laquelle la BCE n'a pas la main.
Merci Marie Viennot. Alors outre toutes ces solutions économiques censées répondre aux conséquences désastreuses de cette pandémie, nombre de pays continuent d'appliquer des mesures drastiques. L'Inde a suspendu jusqu'au 15 avril l'attribution de tous les visas de tourisme. En Italie, la mise en quarantaine généralisée de l'ensemble du pays s'est doublée depuis ce matin de la fermeture de tous les commerces, à l'exception de ceux qui commercialisent de l'alimentation et des produits de santé. En Irlande, toutes les écoles seront fermées à partir de demain. Et puis aux États-Unis, Donald Trump a lui annoncé hier soir une mesure sans précédent face à l'aggravation du nombre de contaminations recensées aux États-Unis, plus de 1000 cas, dont une trentaine de morts. Le chef de la Maison-Blanche a décidé de suspendre pour une durée de 30 jours tous les voyages en provenance d'Europe, à l'exception toutefois du Royaume-Uni. En clair, et après avoir déjà vilipendé la Chine en qualifiant le coronavirus de virus de Wuhan, Donald Trump a décidé de s'en prendre désormais à la réaction jugée laxiste de l'Union européenne et qui, selon lui, aurait contribué donc à propager le virus, une politique du bouc émissaire en somme. Angélique Bouin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Bruxelles. En clair, Donald Trump jette aujourd'hui l'opprobre sur le vieux continent. L'Europe est la nouvelle Chine, a-t-il notamment affirmé hier. Des affirmations évidemment sans preuve. Comment l'Europe réagit-elle à ces attaques, Angélique?
Eh bien, après l'état quelque peu de sidération ce matin, les dirigeants des institutions ont réagi il y a une heure dans un communiqué pour condamner cette décision. Prise, est-il écrit, unilatéralement et sans consultation. Réponse assez polie, on peut dire également, sur la vive attaque de Donald Trump sur le fait que l'Europe aurait été incapable de prendre les bonnes décisions. Eh bien, l'Union européenne prend des mesures énergiques pour limiter la propagation de ce virus, répondent dans ce courrier à la fois la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil, Charles Michel. Ils ajoutent que c'est une crise mondiale qui ne se limite à aucun continent et qui nécessite une coopération plutôt qu'une action unilatérale. Interrogé en salle de presse il y a quelques minutes sur cette réponse assez molle, le porte-parole de la Commission, Eric Mamère, a ajouté qu'il n'était évidemment pas question pour lui et pour les institutions d'entrer dans un jeu de ping-pong et de commentaires avec le président américain. Quant à répondre avec le même type de mesure d'interdiction, nous ne prendrons aucune décision à chaud, vient-il de dire. Cette annonce a en fait pris tout le monde de court ici dans les institutions, d'autant que les pays visés sont ceux de l'espace Schengen. Cela ne concerne pas tous les pays de l'Union. 4 n'y sont pas. Pourquoi les Roumains et les Bulgares peuvent-ils aller aux États-Unis? Il y a en revanche les Norvégiens ou la Suisse. Cette question reste sans réponse. Pour le président du Conseil européen, Charles Michel, la priorité, il l'a dit aussi, va être d'éviter les retombées économiques de cette décision. Il faut dire que cette nouvelle crise avec l'Amérique tombe au pire moment, après des mois de tensions commerciales et les menaces américaines d'augmenter des taxes douanières sur Airbus ou le secteur automobile. Il y avait quelques signaux positifs. Bruxelles espérait même réussir à conclure un mini-accord avec les Américains d'ici le 18 mars, la semaine prochaine, autant dire que cela jette un froid.
Merci Angélique Bouin, en direct de Bruxelles. Alors, si certains jugeront que la décision américaine témoigne peut-être d'une certaine panique au sein de l'administration Trump, pour autant, les États-Unis ne sont pas les seuls à opter ainsi pour une politique du réduit national. Reste à savoir si cette stratégie est susceptible de freiner la propagation du virus, ou dit autrement, la fermeture des frontières a-t-elle un sens d'un point de vue épidémiologique? Et cette question se pose en particulier s'agissant de la France, car toutes les mesures prise jusqu'à présent par le gouvernement, qui se veut confiant et rassurant, diffère en l'occurrence sensiblement de celle de ses voisins européens. Alors est-ce uniquement à cause d'un décalage temporel? La France a peu ou prou 10 jours de retard avec l'Italie dans la propagation de l'épidémie, auquel cas se dirige-t-on peu à peu vers un scénario à l'italienne? Ou bien la France, à l'instar d'ailleurs de l'Italie au début, sous-estime-t-elle le coronavirus? Pour l'heure, impossible évidemment de le savoir. Peut-être d'ailleurs en saura-t-on davantage ce soir, puisqu'Emmanuel Macron doit s'exprimer à 20h à la télévision dans une déclaration solennelle aux Français. En revanche, il est des questions très concrètes cette fois-ci et auxquelles il est possible dès à présent d'apporter des réponses. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour.
On entend un peu tout et son contraire s'agissant de ce nouveau coronavirus. Voilà pourquoi il nous est apparu utile de rappeler à la fois, Tara, comment se transmet la maladie, mais aussi combien de temps vit ce virus fonction de l'environnement.
Le virus à l'intérieur du corps humain se situe dans la sphère nasale et dans la gorge. C'est un virus respiratoire. Il est présent dans ce qu'on appelle les micro-gouttelettes. Il se transmet au moment où un malade tousse, où il éternue. Ce n'est pas la salive elle-même qui contient le virus, mais les sécrétions venues des sinus du larynx qui se mêlent à la salive. Il faut donc se protéger des projections que génèrent les personnes atteintes du Covid-19. Les gouttelettes infectées ne se propagent pas au-delà d'un mètre, disent les experts. C'est une distance moyenne. En tout cas, le virus ne flotte pas dans l'air, ça s'est prouvé. Voilà pourquoi les autorités sanitaires estiment qu'un masque chirurgical porté à la fois par le malade et par la personne qui se trouve face à lui peut suffire. À l'extérieur du corps humain, maintenant, le virus reste infectieux quelques heures seulement. Sur une surface dite inerte, comme une paillasse en inox, il persiste entre 4 et 6 heures. Ça dépend de la température. Plus il fait frais et humide, plus le virus survit. Dans les 4 à 6 heures, donc, lorsqu'on touche une surface infectée et qu'ensuite on porte sa main à la bouche, on peut tomber malade. Voilà pourquoi il est important de se laver les mains 30 secondes minimum au savon ou d'utiliser un gel hydroalcoolique.
Et puis, il est important, Tara, également de connaître la période d'incubation.
De la maladie, oui, car le Covid-19 peut se transmettre pendant cette période avant même les premiers symptômes. Avant-hier, la Johns Hopkins School of Public Health à Baltimore a publié une étude sur 181 malades chinois et elle a donc confirmé que les symptômes se sont déclarés en moyenne au 5e jour et au plus tard au 11e jour. Mais dans 1,01% des cas, les chercheurs ont aussi noté que des symptômes pouvaient encore se produire après 14 jours, ce qui veut dire que ces malades-là pourraient être contagieux après leur période de quarantaine. Ça rejoint une autre incertitude, Thomas. Pour l'instant, on ne sait pas encore combien de temps les malades restent contagieux une fois qu'ils sont complètement guéris. Une étude chinoise, cette fois, a parlé d'une vingtaine de jours, mais ces faits-là ne sont pas confirmés.
Merci Tara Schlegel. Alors, je le disais tout à l'heure, tout l'exécutif a décidé de s'afficher aujourd'hui en première ligne face à l'épidémie. Le président Emmanuel Macron s'exprimera ce soir à la télévision depuis l'Élysée. Quant à Édouard Philippe, entouré de 5 de ses ministres, il recevait ce matin à Matignon les présidents des assemblées, des groupes parlementaires, ainsi que les chefs du parti et les présidents des associations d'élus. Sophie Delpont, bonjour.
Bonjour.
Aucune annonce n'a été faite par le Premier ministre, sans doute dans l'attente de l'allocution du président ce soir, mais manifestement, Sophie, une certaine impatience se fait d'ores et déjà ressentir dans les rangs de l'opposition.
Oui, la pression monte d'un cran avant la prise de parole d'Emmanuel Macron ce soir. Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, se dit très déçue de cette réunion à Matignon.
On ne nous donne aucun élément précis sur la disponibilité des masques. Quand, pour qui, combien, rien, on ne sait rien. On ne peut rien dire aux médecins qui nous interrogent sur ce sujet, rien dire aux gens qui sont détectés et qui ont le coronavirus et qui souhaitent protéger leurs proches avec un masque. Ils n'en ont pas, ils ne sont pas disponibles. Rien sur la montée en puissance des tests et notamment leur nombre.
De son côté, Jean-Luc Mélenchon, le président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, préfère lui insister sur le besoin d'unité nationale face au virus.
Il faut que chacun fasse ce qui est à sa portée et le fasse sans arrière-pensée et sans excès d'esprit polémique parce que ça sert à rien.
Mais comme le Parti Socialiste et le Parti Communiste, ils demandent la suspension de la mise en application de la réforme de l'assurance chômage. Europe Écologie Les Verts réclame la mise en place d'un plan d'urgence à l'hôpital, quand le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, propose lui un ensemble de mesures économiques.
Les entreprises qu'il faut soutenir avec une aide en trésorerie, crédit, avec pas seulement des reports de dettes d'État, je pense à l'URSSAF, je pense aux dettes sociales, je pense aux dettes fiscales, mais aussi avec des allègements, faire des dégrèvements d'impôts. La deuxième priorité, c'est soutenir les salariés, le chômage partiel. Troisième priorité, c'est un plan de relance.
Un plan est en cours d'élaboration, promet Matignon. Mais cette réunion était avant tout vouée à montrer la mobilisation du gouvernement avant la prise de parole du chef de l'État ce soir.
Merci Sophie Delpont. Et pour continuer d'évoquer cette crise, invité de la rédaction aujourd'hui, Marc Fesneau, ministre des Relations avec le Parlement. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Monsieur Fesneau, vous participiez vous-même ce matin donc à cette réunion à Matignon. On vient de l'entendre, certains ont reproché de ne rien avoir appris. Qu'est-ce qu'il vous a été dit à cette réunion ?
C'est une réunion qui succédait à une réunion qui s'était tenue il y a 15 jours, d'ailleurs à la demande à l'époque d'un certain nombre de formations politiques et de présidents de groupe, et qui visait à faire un point d'étape à la fois sur les questions sanitaires, la question des zones de confinement, enfin toutes les questions qui sont posées et auxquelles répond généralement le directeur général de la santé tous les soirs, et puis deux, sur les conséquences immédiates et les conséquences moyen et long terme en termes économiques. et en termes de vie sociale. Et donc ça a permis de faire un point sur les premières mesures qui sont prises sur ce sujet-là, c'est-à-dire les mesures de chômage partiel, les mesures d'allègement de charges sociales et fiscales, et puis deux, de se mettre dans la perspective, c'est une demande d'un certain nombre de responsables publics, de regarder les mesures qu'il faudra prendre à moyen terme c'est au mois d'avril, quand on verra l'ampleur, si je peux dire, ou l'ampleur prévisible de la crise économique que nous aurons devant nous pour essayer d'en limiter l'impact.
Question de Stéphane Robert.
Et du coup, à quoi ça sert? Quel rôle peuvent jouer les responsables politiques que vous avez vus ce matin et qui étaient avec vous à Matignon?
D'abord de relayer auprès des opérateurs les informations qui leur sont données et de faire en sorte aussi qu'on puisse essayer de faire converger les points de vue sur un certain nombre de mesures. Je crois que tout le monde, vous en avez parlé tout à l'heure, converge sur l'idée qu'il faille immédiatement prendre des mesures de chômage partiel qui permettent aux entreprises et aux salariés de rester dans une situation d'emploi et de pas être mis en situation de chômage et qu'il n'y ait pas de situation de licenciement. Tout le monde est d'accord avec la difficulté d'un certain nombre d'entreprises de trésorerie, ce dont vous avez parlé à l'instant, c'est la difficulté qu'ont des entreprises qui sont viables, mais qui dans une situation de choc économique, et on voit bien la panoplie des entreprises ou des secteurs qui sont touchés, le secteur du tourisme, le secteur du spectacle, le secteur depuis les décisions, y compris des États-Unis, du transport en général et du transport aérien en particulier. Donc c'est l'ensemble de l'attente et de l'attention qu'on doit porter à un certain nombre de secteurs. Donc il faut essayer de faire converger les points de vue. Il y a différents points de vue qui se sont exprimés. Il a été demandé aussi que le Parlement puisse se saisir assez rapidement. Le Premier ministre a dit qu'il donnerait une temporalité effectivement raisonnable pour que le Parlement puisse se saisir des questions budgétaires qui se poseront comme elles se sont posées pour d'autres pays européens.
Est-ce qu'on sait à quoi s'attendre? Est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on peut qualifier cette crise-là? Vous la qualifieriez de sérieuse?
C'est une crise sérieuse. D'abord, c'est une pandémie mondiale, donc elle révèle ce que l'histoire de l'humanité parfois a pu craindre. On n'est pas du tout dans les configurations précédentes, mais c'est une crise de nature mondiale d'un point de vue sanitaire. L'OMS, d'ailleurs, avait alerté sur les risques de cette épidémie. Et puis deux, c'est une crise qui pose un choc immédiat économique et peut-être derrière des chocs financiers assez lourds. Et donc, celle-là aussi qu'il faut anticiper. Donc, on a deux crises, une immédiate qu'on nous gérons, dans tous les pays, chacun aussi avec son histoire, son organisation, ses modes d'action et ses règles. Et puis une crise économique qui est nécessaire aussi d'essayer d'anticiper dans ses fondements immédiats et dans ses fondements moyen terme. Il me semble que dans ce type de crise, les décisions unilatérales sont parfois mauvaises conseillères et que nous aurions intérêt à l'échelle du continent européen, mais au fond à l'échelle de la planète, si je peux dire. Parce que la Terre est ronde jusqu'à nouvel ordre. Et jusqu'à nouvel ordre, les virus n'ont pas de passeport. Et donc, nous aurions intérêt à nous coordonner parce que on peut pas avoir à la fois ça, puis une bataille sur le champ pétrolier parce que ici et là, l'Arabie Saoudite et la Russie ont décidé de mener une action à l'endroit des États-Unis sur les cours du pétrole. Je veux dire, il y a un moment, il y a un besoin de coordination parce que c'est l'intérêt des citoyens.
Et de les citoyens du monde. Ça s'enclenche bien ou pas?
Pour l'instant, on n'en a pas tout à fait les signaux. Je crois qu'au niveau européen, il y a en revanche une volonté. On verra les décisions qui seront annoncées par la BCE cet après-midi, même si vous en avez exprimé à la fois les limites et les potentialités. Au niveau européen, je crois qu'on a pris la mesure des choses. Après, au niveau mondial, il y aura besoin de quelque chose qui soit l'ordre d'un dialogue mondial. Le président de la République, dans le cadre du G7 et dans le cadre du G20, va aussi prendre un certain nombre d'initiatives. Ça a été d'ailleurs demandé ce matin aussi, pour faire en sorte qu'il y ait une coordination mondiale, à la fois sur la question sanitaire, mais aussi sur les répercussions de cette crise sanitaire.
Est-ce qu'on peut s'attendre à un scénario à l'italienne? On l'évoquait il y a quelques instants. Et est-ce que l'exemple italien nous est utile?
Ça dépend ce qu'on appelle un scénario à l'italienne. Le scénario à l'italienne, il est à la fois une montée en puissance d'un virus, mais quand vous regardez les courbes dans tous les pays, il y a une montée en puissance du virus. C'est un scénario.
Donc ça va nous arriver.
C'est le scénario qui est plus de gens contaminés d'un jour sur l'autre est un scénario qui est crédible. Je ne vois pas pourquoi la France serait à l'abri de ce genre de questions. Et c'est à cela où on se prépare à ça. Et le ministre Véran, le directeur général de la Santé, se prépare à ça depuis d'ailleurs des semaines, pas depuis 3 jours. Et donc c'est ces courbes-là qu'il faudra suivre. Et donc c'est un premier élément de réponse. Puis le deuxième élément de réponse, le scénario à l'italienne, c'est aussi un scénario d'une réponse peut-être que... Mais je ne fais pas de jugement parce que c'est très difficile dans une crise sanitaire de faire... D'abord, c'est pas bien. Et ensuite, ça n'est pas juste de faire un jugement sur ce qu'ont fait les collègues et voisins européens. Le scénario italien est un scénario d'engorgement des urgences et d'une montée très rapide du virus qui a fait qu'un certain nombre d'établissements hospitaliers n'ont pas pu faire face ou ont été très rapidement en tension. Et donc toute notre stratégie est une stratégie pour retarder, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est la question du retardement de la phase épidémique et de son lissage dans le temps, parce qu'évidemment, ça met moins en tension les établissements hospitaliers et tous ceux qui sont en charge des soins pour essayer de lisser au maximum les effets de cette crise sanitaire.
Au-delà du système de santé, est-ce que les services de l'État sont prêts à faire face ? Transport, éducation, police, établissement pénitentiaire,
Depuis des semaines, on se prépare à des plans de continuité qui font face à la fois à la question sanitaire et aussi aux conséquences d'une question sanitaire, parce que quand vous avez des mesures de confinement, qui peuvent être justifiées d'ailleurs, pour des gens qui sont atteints, vous avez immédiatement des questions de personnes, s'ils sont policiers, s'ils sont pompiers, s'ils sont personnels soignants, s'ils sont enseignants, il y a des questions de continuité du service, ou s'ils doivent garder leurs enfants parce que les enfants sont atteints. Et donc, oui, on est en train, le ministre Djebari, enfin, tous les ministères et tout l'interministériel est mobilisé pour faire face à ce que seraient, non pas seulement des gens qui seraient malades, mais les conséquences de mesures de confinement sur l'ensemble de la chaîne, et de la chaîne sociale, au fond.
On est en train de se préparer. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a annulé, il y a quelques minutes, un déplacement qui était prévu cet après-midi en Moselle, à Metz, au cours duquel il devait détailler les mesures qui vont permettre la tenue des élections municipales, dont le premier tour a lieu dimanche. Est-ce que ça signifie qu'on pourrait les reporter ? Est-ce que c'est envisageable ?
Ce n'est pas à l'ordre du jour, ça a été redit ce matin. Dans la réunion qu'on a évoquée tout à l'heure, on est à 2 jours du scrutin, ou 3 jours du scrutin. Il y aurait quelque chose d'assez invraisemblable, me semble-t-il, dans l'état de la situation, à reporter les élections. Après, il y a un certain nombre de mesures de précaution qui peuvent être prises. Je le rappelle, il y a des mesures qui ont été faites pour faciliter encore plus. C'était déjà le cas, hein, mais là, on a poussé les choses beaucoup plus fort pour faciliter les procurations, pour permettre à ceux qui auraient le sentiment qu'ils pourraient être en danger, je pense aux personnes qui résident dans des établissements... des maisons de retraite, pour faire simple, pour pas dire EHPAD. Et donc, il y a des mesures de procuration, il y a des mesures et des consignes qui seront données dans les bureaux de vote pour que chacun puisse se sentir à l'aise. Ça a été décrit tout à l'heure par votre confrère. On voit bien les conditions de contamination dans un bureau de vote, ça n'est pas le lieu où la contamination
paraît. Est-ce qu'on peut avoir une crainte sur la participation et la sincérité du scrutin ?
En tout cas, nous, on fait tout pour faire en sorte que la participation soit élevée comme elle l'est généralement pour les élections municipales, même si continuellement, on voit plutôt une décroissance, et pour que chacun puisse... aller voter à la fois en fonction de ses convictions et puis sans crainte au fond pour sa propre santé.
Merci Marc Fesneau, ministre, je le rappelle, des relations avec le Parlement, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Stéphane Robert. Et puis pour clore donc cette très longue page consacrée à la pandémie, j'ajoute que la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a assuré ce matin qu'elle annoncerait d'ici quelques jours des mesures pour les travailleurs précaires, premiers concernés par la réforme de l'indemnisation du chômage, censée entrer en vigueur au 1er avril récemment. Et dans ce contexte particulier, tous les syndicats ont demandé au gouvernement de reporter cette réforme qui, selon eux, va pénaliser les travailleurs les plus fragiles. Il faut qu'on fasse ce qui est le plus efficace pour les travailleurs précaires, a déclaré Madame Pénicaud, sans dire si cela passerait par un report de l'entrée en vigueur des nouvelles règles. De son côté, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a annoncé que le gouvernement était prêt à augmenter les fonds d'indemnisation consacrés à l'activité partielle des entreprises et à porter les remboursements au-delà d'une fois le SMIC pour atténuer, là encore, les conséquences de l'épidémie de coronavirus. Enfin, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a lui précisé ce matin que le gouvernement n'a jamais envisagé la fermeture totale de toutes les écoles. Cela nous semble contre-productif, a-t-il précisé. S'agissant toujours d'éducation, Jean-Michel Blanquer a également annoncé ce matin plusieurs mesures pour assouplir les E3C, comprenez les examens du nouveau bac en contrôle continu. Parmi elles, un calendrier plus souple pour la deuxième session qui se déroulera de fin avril à juin, manière donc de laisser le temps aux établissements de s'organiser et aux professeurs de finir leur programme. Rappelons que dans une quinzaine d'établissements, les élèves de première n'ont toujours pas passé leur première session. Nombre d'examens ont en effet été reportés après des blocages de lycées par les élèves opposés à cette nouvelle formule du bac. En clair, les réponses donc apportées ce matin sont pour l'essentiel des réponses techniques, mais ne changent rien au fond du problème, et c'est ce que regrette Rodrigo Arenas, co-président de la FCPE, joué en téléphone par Adrien Bossard.
On part au plus urgent, on essaye de calmer le jeu dans des établissements qui pour certains sont vraiment dans des états compliqués en termes humains, en termes de capacité à encaisser ces réformes à marche forcée. Voilà, il y a des établissements qui sont à bout, qui sont au bord de la rupture, des chefs d'établissement aussi qui le disent, parfois même à visage découvert, qu'ils sont au bord de la rupture, tout repose sur eux. Donc ce n'est pas une réponse technique qu'il faut aborder, ce n'est pas simplement de simplifier les choses et d'améliorer le fonctionnement d'un examen, c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait un examen pour évaluer ce qu'un élève a fait tout au long de sa scolarité? Pourquoi est-ce que, alors qu'on dit qu'il faut évaluer des parcours, qu'il faut tenir compte de l'hétérogénéité des élèves, qu'il faut tenir compte aussi de l'hétérogénéité des situations, on en revient à finalement évaluer ce que vaut un élève au moment T? Ça n'a pas de sens. On ne repense pas des évaluations à l'aune des enjeux auxquels sont confrontés les enfants, avec comme point de Godwin, Parcoursup, s'il tient compte, comme l'avait demandé la FCPE à l'époque, que le patronyme des élèves ne soit pas retenu, que l'adresse où habitent les élèves ne soit pas retenue dans Parcoursup, on tient encore compte du lycée d'origine. Or, on sait dans notre pays, sauf à vouloir se cacher la tête dans le sable, que le lycée dans lequel est un élève est important pour sa sélection post-bac.
Voilà, Rodrigo Arenas, co-président de la FCPE, il répondait à Adrien Bossard. Deux des trois policiers acquittés en 2018 par la cour d'assises de Bobigny au titre de la légitime défense pour une intervention musclée en Seine-Saint-Denis seront fixés sur leur sort aujourd'hui, rejugés en appel pour violence volontaire sur un jeune homme confondu avec un fuyard et sa mère, éborgnée par l'explosion d'une grenade de désencerclement. Ils encourent des peines de 3 à 18 mois de prison avec sursis assorti d'une interdiction professionnelle. Le verdict est attendu aujourd'hui. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi dominé par la pluie et la grisaille sur la majeure partie du pays, à l'exception du sud-est. Par ailleurs, 6 départements du nord et de l'ouest ont été placés en vigilance orange inondation dans un contexte de grande marée. Quant aux températures, elles afficheront entre 10 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.